Nous avons devant nous une collection de documents assez incroyable. Ce ne sont pas des rapports d'état-major, non, ce sont des fragments d'une vie. On a là un carnet de guerre, des photos de famille jaunies, un livret militaire et même cette lettre-là écrite à la main. Le tout a été assemblé par un petit-fils, Didier Lebouc, pour raconter l'histoire de son grand-père, Pierre Lebouc. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans ses archives pour suivre ce jeune homme, 19 ans, apprenti marchand de couleurs à Paris, et quelques mois plus tard, le voilà projeté dans l'enfer de la Première Guerre mondiale. On ne va pas parler de stratégie, mais bien du destin d'un soldat parmi des millions pour essayer de comprendre la guerre de l'intérieur.
Et ce qui est formidable avec ces documents, c'est qu'ils nous permettent de commencer juste avant le fracas. Pierre Lebouc, il est de la classe 1915. Ça veut dire qu'il n'est pas mobilisé tout de suite, en août 14. Et ça nous donne une anecdote, à la fois charmante et déchirante. Le 1er août 1914, jour de la mobilisation, il déjeune à Paris avec son frère Robert. La patronne du restaurant apprend la nouvelle. Elle les voit, ces deux jeunes, et elle leur demande ce qui leur ferait plaisir.
Et alors, que répondent-ils ?
Ils demandent un second repas, et elle le leur offre. C'est un détail, mais il dit tout quoi. C'est l'insouciance de la jeunesse, un dernier plaisir simple, presque enfantin, juste avant que le monde bascule.
Une insouciance qui, on s'en doute, ne va pas durer longtemps. Il est incorporé en décembre 1914, il rejoint le 4e bataillon de chasseurs à pied. Le 4e BCP.
Le fameux 4e BCP, oui.
Comme chasseur téléphoniste. Et là, tout s'accélère, formation très sommaire, et dès janvier 1915, il est envoyé en Belgique. Secteur d'Ypres.
Le baptême du feu. Et quel baptême ? Le rythme décrit dans son carnet est implacable. 5 à 7 jours en première ligne. La boue, les tirs. Puis quelques jours de repos.
De repos entre guillemets, j'imagine.
Oui, bien sûr. C'est surtout de l'instruction et des corvées. Mais le vrai tournant, le moment où la guerre elle-même change de nature, c'est fin avril 1915.
On arrive aux attaques au gaz. C'est un des symboles de cette guerre, mais là, avec ces documents, on est presque au jour zéro de cette horreur. Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe, les soldats, les officiers ?
Non, absolument pas. Et c'est ça qui est stupéfiant. Le 4e BCP est l'une des toutes premières unités alliées à subir une attaque au chlore. Et quand on lit les archives du bataillon, le commandement est complètement aveugle. Les ordres pour la contre-offensive, ils ne mentionnent même pas cette nouvelle arme.
Mais c'est pas possible. Et disent quoi alors ?
La directive, c'est, je cite, de poursuivre avec la plus grande énergie une offensive ennemie entamée. Ils envoient leurs hommes vers un ennemi invisible.
C'est de la folie pure. Avancer vers un nuage de poison sans même savoir ce que c'est. Et dans le journal du bataillon, comment c'est décrit ?
La description est clinique. Terrifiante. Ça parle d'un nuage épais, de gaz asphyxiant qui s'échappe des tranchées allemandes. Et puis cette phrase qui tombe comme un couperet. La résistance est impossible.
Et les pertes ?
Vertigineuses. En 2 semaines, le bataillon passe de 1686 hommes à 1140. Et ce détail terrible, plus de 200 soldats sont listés comme incapables du moindre effort. C'est une horreur nouvelle, industrialisée, qui ne tue pas seulement, mais qui anéantit le corps.
Et au milieu de ce chaos, il y a cette anecdote personnelle. Un vieux soldat, un de 14, qui le prend en grippe et lui dit de s'éloigner parce qu'il porte la poisse.
Exactement. Ça montre la tension psychologique, les superstitions qui naissent de l'horreur. Et puis, il y a une autre histoire. Une coïncidence incroyable que seuls les documents révèlent. En superposant les cartes et les dates, on réalise que le 2 mai 1915, Pierre Lebouc est à moins de 300 mètres d'un poste de secours avancé, un lieu nommé Essex Farm.
Essex Farm, ça me dit quelque chose, ça.
C'est l'endroit exact où, au même moment, un lieutenant médecin canadien, John McRae, est en train d'écrire l'un des poèmes les plus célèbres du monde.
In Flanders Fields.
Au champ d'honneur, oui. Le poème qui a fait du coquelicot le symbole du souvenir pour tout le Commonwealth est né là, à quelques pas de Pierre.
Incroyable !
Bien sûr, il n'en a jamais rien su.
C'est une image folle. Deux hommes, au même endroit, au même moment. L'un qui subit l'horreur, l'autre qui la transforme en un symbole éternel. Il survit à ça, mais j'imagine que le répit n'est pas duré. Où est-ce qu'on le retrouve ensuite ?
Le répit est quasi inexistant. Après les Flandres, il y a l'Artois. La Champagne. Mais la descente aux enfers suivante, c'est Verdun. Février 1916, le 4e BCP est envoyé en urgence, dès le début de l'offensive allemande. Et là, les documents révèlent une autre facette du chaos, l'impréparation.
L'impréparation. Mais on est en 1916. La guerre dure depuis un an et demi. L'armée devrait être rodée, non ?
C'est ce qu'on pourrait croire. Mais on a un document exceptionnel qui prouve le contraire. Le journal d'opération du commandant Fouchard. Juste avant de monter à l'assaut, il fait un état des lieux à son état-major. Et c'est... ce n'est pas un rapport, c'est un cri d'alarme.
Attendez. On les envoie dans ce qui va devenir la plus grande boucherie de l'histoire. Et le commandant signale que ça ne va pas, c'est-à-dire, quel problème ?
C'est hallucinant. Il écrit, je cite, « Troupes un peu fatiguées, besoin impérieux de sommeil ».
Déjà, ça commence bien.
Il continue. « Les vivres sont épuisés. Ensuite, pas d'outils du parc. »
Pas d'outils, pas de pelle, pas de pioche pour se protéger ?
Rien. Et le pire, la phrase qui dépasse l'entendement. « Carte à petite échelle, plan directeur, néant. »
Néant. Il les envoie se battre à Dardan sans carte.
C'est ça. C'est l'urgence absolue, des unités jetées dans la bataille pour colmater les brèches. Le résultat est là. Ils partent au combat, à l'aveugle, épuisés, affamés. Et le récit qui suit, c'est un chaos total. Des manœuvres de nuit, dans un terrain inconnu, des ordres, des contre-ordres.
Et le soutien de l'artillerie, la fameuse artillerie française.
C'est la phrase la plus terrible du rapport. Le commandant la répète plusieurs fois. Notre artillerie ne tire pas un coup de canon.
Pendant que le bombardement allemand est...
d'une violence inouïe. Ils sont seuls, sous un déluge de feu. L'issue est tragique, évidemment. Ils doivent se replier. Et là, on tombe sur un de ces euphémismes militaires qui glacent le sang. Le journal note que le repli est couvert par deux compagnies qui tiennent tête vigoureusement.
En clair, on les sacrifie.
On les sacrifie délibérément pour permettre aux autres de s'échapper.
Et le bilan de ces 10 jours ?
Catastrophique. Sur 1700 soldats, le bataillon compte 642 pertes. Tués, blessés ou prisonniers.
Plus d'un homme sur 3.
En 10 jours. Le chiffre est presque abstrait.
Et pourtant, Pierre Lebouc est toujours là. Il survit encore. Après Verdun, il y a la Somme, une autre boucherie. Et c'est là, au milieu de cet enfer, qu'il est décoré de la Croix de guerre.
Oui, et la citation dans son livret militaire nous aide à comprendre pourquoi. Elle dit « Chasseur téléphoniste de toute confiance, au front depuis le début de la campagne, sans blessure ni évacuation, s'est toujours signalé par sa bravoure sous le feu. »
Chasseur téléphoniste. On ne réalise pas forcément ce que ça voulait dire. Ce n'était pas un travail de bureau, loin de là.
Ah non, pas du tout. C'était une des fonctions les plus exposées. Son boulot, c'était de sortir de la tranchée, sous les bombes, pour aller réparer les lignes coupées par les obus.
Il rampait dans le no man's land.
Exactement. Avec une simple bobine de fil. Sans communication, il n'y a pas d'ordre, pas de tir d'artillerie. C'était vital. Et les téléphonistes avaient une espérance de vie très très courte.
Un miracle donc qui a malheureusement une fin. Sa chance tourne en février 1918, retour à Verdun, et là, une nouvelle attaque au gaz.
Oui, mais ce n'est plus le chlore de 1915. La guerre chimique est devenue une science. Les sources décrivent une tactique mixte, d'une perversité redoutable. D'abord, des obus aux fausses gènes, un gaz très létal pour forcer les soldats à se terrer dans leurs abris souterrains.
Et c'est là que le piège se referme, j'imagine.
Exactement. Une fois que les hommes sont à l'abri, les Allemands arrosent la zone avec des obus à lipérite, le gaz moutarde. C'est un gaz plus lourd que l'air. Il coule, s'infiltre par les entrées des abris et intoxique les soldats là où ils se croient en sécurité.
C'est cette blessure qui met fin à sa guerre.
C'est ça.
Les séquelles sont terribles. Il est aveugle pendant un mois, ses poumons sont brûlés, il toussera toute sa vie. On a cette photo poignante du bataillon prise après son évacuation. On voit ses camarades, les survivants. Lui n'est plus là. Il n'est plus sur la photo.
Il apprend l'armistice le 11 novembre 1918, en convalescence à Paris. Mais même là, la guerre n'est pas tout à fait finie pour lui. Il n'est démobilisé qu'en septembre 1919. Et entre-temps, il passe l'hiver en Alsace, qui vient de redevenir française. Et là, son unité est prise pour cible par des francs-tireurs, des Alsaciens qui sont opposés au retour à la France.
C'est inimaginable. Après 4 ans d'horreur, pour libérer l'Alsace, et on leur tire dessus. Comment réagissent-ils ?
Les nerfs lâchent.
Complètement.
Les soldats, dont Pierre, veulent brûler le village en représailles. C'est l'incompréhension totale, une réaction viscérale. Et il faut que leurs propres officiers les menacent avec leurs armes pour les calmer.
Ça montre à quel point ils étaient à vif, même après l'armistice.
Le retour à la peste n'est pas un interrupteur, non ?
Quand on met tout ça bout à bout, du repas à Paris en 1914, à cette colère en Alsace en 1919... Le parcours de Pierre Lebouc, c'est celui d'une génération. Survivre au premier gaz, à Verdun, être décoré, et finalement être brisé par une arme chimique. une histoire à la fois unique et universelle.
Et le mot de la fin, le plus puissant, je crois que c'est Pierre Lebouc lui-même qui nous le donne. La source la plus touchante, c'est peut-être la plus courte. Cette petite lettre écrite en 1968 à son petit-fils pour les 50 ans de l'armistice. Il résume sa guerre en quelques lignes, d'une écriture très sèche. On lit 1916, Verdun, terrible combat. Et pour le 11 novembre 1918, il écrit juste deux mots.
Lesquels ?
Fin du cauchemar.
Fin du cauchemar.
Cette sobriété, 50 ans après, en dit tellement plus long que tous les rapports. C'est le poids du souvenir. L'impossibilité de mettre des mots sur l'horreur.
C'est exactement ça. Ces archives, elles donnent les dates, les lieux, les chiffres, mais elles ne disent rien du froid dans les tranchées, de l'odeur du chlore ou de la voix d'un camarade qu'on essaie de distinguer dans le bruit d'un bombardement. Le parcours de Pierre Lebouc nous rappelle que derrière chaque nom sur un monument aux morts, il y a une histoire aussi dense, aussi tragique. Et on peut se demander, pour tous ceux qui n'ont laissé ni carnet, ni lettres, ni photos, que reste-t-il de leur histoire, à part un silence assourdissant.
8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.